C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France, à la Cité des Congrès, où s'est déroulé pendant 3 jours le sommet Climate Change. Plus de 3000 personnes sont venues à la rencontre des acteurs de la société civile. 300 intervenants de plus de 60 pays engagés dans l'action contre les changements climatiques. Bonjour Ronan Dantec.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de Loire-Atlantique, vice-président de la commission développement durable, porte-parole de l'Organisation mondiale des villes, CGLU, cités et gouvernements locaux unis. Et c'est vous qui avez eu l'idée de créer ce sommet. Alors, quel est son objectif ?
L'objectif, il est extrêmement simple. Nous avons maintenant l'accord de Paris. Donc, les États ont reconnu l'extrême gravité du changement climatique. Se sont donné un objectif, stabiliser le climat entre 1,5 et 2 degrés d'augmentation. Et puis, à côté, ils ont pris des engagements volontaires à l'échelle de chaque pays. Et quand on fait le total des engagements, on ne trouve pas 1,5 ou 2 degrés. On trouve plutôt un peu plus de 3 degrés. Donc il y a un fossé à combler. Il y a une nécessité aujourd'hui de faire en sorte que l'action concrète, c'est les territoires, c'est les villes, c'est les gens dans leur vie quotidienne, c'est les process économiques et énergétiques, et bien que l'action concrète, finalement, permette aux États assez rapidement de réévaluer leur contribution et qu'on aille véritablement vers ces 2 degrés. Mais pour cela, il faut réunir les acteurs. Réunir les acteurs en sortant aussi des entre-soi, les villes d'un côté, les ONG de l'autre, les entreprises dans un troisième sommet. Donc l'idée est très simple et qui fait suite à ce qu'on a fait à Lyon avec le sommet climat et territoire l'année dernière, c'est de dire il y a un moment dans l'année où on se rassemble tous, où on fait le point, on échange les bonnes pratiques et on délivre un certain nombre de messages.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les couloirs ou dans les salles, les gens se connaissent, hein, on se tutoie, on s'embrasse, il y a même des personnes qui disaient on se marie, même parfois entre personnes qui parlent du climat, sauf que chacun, jusque-là, jusqu'à l'accord de Paris, finalement, restait un petit peu dans son coin en disant nous on se bat pour les villes, nous on se bat pour l'agriculture, nous on se bat pour les océans, et ça communiquait pas trop. Or là, depuis l'accord de Paris, il faut aller plus vers du collectif pour que chaque territoire s'empare avec son contexte environnemental, finalement, de cette lutte contre les changements climatiques.
Il y a effectivement le groupe de base, il est là, le World Climate Circus Tour. Mais ils sont ici à Nantes aussi confrontés en échange, en questionnement avec des acteurs qui ne connaissent pas la mécanique de la négociation. Il y a des gens qui viennent parce qu'il y a 75 ateliers de présentation de bonnes pratiques pour prendre des idées, pour les appliquer sur leur territoire. Donc c'est pas simplement justement la communauté qui se retrouve quand elle le fait pendant les COP. Il faut sortir des quelques milliers de professionnels de la négociation climat. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand on prend les contributions volontaires, qu'on dit tel pays est plutôt bon sur ses engagements, sur sa forêt.
Alors, on va rappeler juste 2 secondes les contributions volontaires. Donc, c'est ce que chaque État, la copie, finalement, de chaque État. Chaque État écrit une contribution volontaire en disant, voilà, moi, ce que je peux faire avec la structure de mon pays pour limiter les changements climatiques.
Et donc, ces contributions volontaires sont très, très disparates aujourd'hui. Certains vont mettre l'aspect forêt en avant, d'autres vont parler des villes. Mais quand on les relit, on s'aperçoit que souvent, ils ont oublié un aspect. Et peut-être que le pays d'à côté, au contraire, est très bon sur cet aspect. Donc si les acteurs, au niveau international, de manière horizontale, n'échangent pas les expériences, on ne sera pas en situation de dire aux États, écoutez, là, vous êtes bon, mais là, vous pouvez faire mieux, y compris simplement en appliquant ce qui se fait ailleurs. Et à partir de là, on réévalue les contributions. Donc on a besoin, justement, de créer ces dynamiques horizontales. Et puis on a aussi besoin que les acteurs non étatiques, là, plutôt de manière formelle, à travers leurs réseaux internationaux, tous ensemble soient capables de passer ensemble ça. L'accès au financement pour les acteurs sur les territoires et notamment sur les territoires des pays en développement, c'est absolument vital.
Alors justement, en face de vous, Luc Nakadja, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes l'ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Vous êtes béninois. Aujourd'hui, vous êtes investi dans 2 structures, Local et GPS-DEV, que je vous laisse présenter en quelques mots.
Mais Local est un fonds et en même temps un mécanisme qui est dédié à la décentralisation de la finance climat pour l'adaptation,
en particulier
dans les pays les moins avancés. Et GPS-DEV, en fait, c'est un cercle de réflexion précisément dont l'ambition est de veiller à territorialiser la réponse aux défis climat.
Alors justement, c'est intéressant parce que vous êtes, en tant qu'ancien secrétaire exécutif, passé de la dimension onusienne, l'accord de Paris, cette dimension assez institutionnelle qui ne parle pas trop aux gens, à la phase concrète maintenant. Je disais, vous êtes béninois, donc vous travaillez pour faire en sorte que ces finances dont parlait Ronan Dantec pour lutter contre les changements climatiques arrivent auprès des populations. Pour quel type de projet? Donnez-nous un exemple concret pour qu'on comprenne comment ça peut s'ancrer dans le quotidien des gens.
Vous voyez, par exemple, j'étais avec Ronan ensemble à Cotonou au forum des villes africaines qui préparaient leur réponse, leur plateforme pour la COP22. Et il y avait un maire qui a présenté des initiatives au niveau local. C'est la mairie de Tukuntuna. C'est une ville au nord-ouest du Bénin. Et c'était quoi le défi? Il s'agissait à peine de 5000 euros pour réparer un pont qui reliait la moitié de la ville à l'autre moitié de la ville. Et d'un côté, il y avait le centre de santé, l'école et le marché et la maternité. Et de l'autre côté, il y avait plutôt les zones résidentielles. Et quand il pleut, il fallait faire un détour de 2 heures. Et quand on a réparé ce pont avec 5000 euros, eh ben, ça a sauvé des vies. Il y a une dame qui ne savait même pas qu'elle portait des jumeaux. Et elle aurait manqué, si le pont n'avait pas été réparé, d'accoucher en chemin, par exemple.
Oui, mais ça, c'est du développement, ce n'est pas de la lutte contre les changements climatiques.
Non, parce que le pont, il fallait réparer le pont. Pourquoi? Parce que à cause de la désertification et à cause de la perte de couvert végétal dans ces zones-là, quand il pleut, les niveaux d'eau sont plus élevés et le pont est devenu infranchissable. Donc il fallait, j'allais dire, mettre le pont aux normes du défi climatique dans la zone. C'est un défi local très précis. Et ce n'est pas à partir de Cotonou qu'on sait répondre à ce genre de défi. Ou si on doit y répondre à partir de Cotonou, il faudrait alors mettre 2 fois plus de moyens pour une réponse moins pertinente. Je peux vous donner un autre exemple. Dans la ville de Dosso, même dans une autre ville de Sandaré au Mali, dans la ville de Dossi au Niger, il y a eu un puits qui a été fait pour les femmes. Savez-vous que, par exemple, en Afrique, on a calculé que les femmes, pour aller chercher de l'eau et du bois, c'est 40 milliards d'heures qu'elles dépensent ainsi par an. Et moi, j'étais dans la ville de Diffa. C'est juste au sud-est du Niger. Il y a 3 ans, j'étais là-bas. J'ai vu des femmes travailler à ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée des terres dégradées. C'est du travail très intense et très dur. J'ai vu des femmes en train de travailler à cela. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous consentez à faire cela? Et j'étais entouré d'experts. Et la dame m'a dit, mais monsieur, si vous étiez venu ici il y a 5 ans ou 10 ans, vous ne m'auriez pas trouvé parce qu'il fallait marcher pendant au moins une demi-journée pour aller trouver de l'eau. Mais parce qu'on a fait ce travail qui consistait à faire quoi? À protéger la régénération naturelle d'arbres pour que ça pousse plus vite. Et en protégeant, on construit des petites infrastructures qui freinent la vitesse de l'eau et qui accroissent la pénétration. La nappe phréatique. Ils ont eu de l'eau sur le site. Ce genre de réponse est locale. Et le défi de l'adaptation, c'est un défi qui est d'abord et éminemment local. Nous avons une ambition que nous devons tous porter, c'est de faire en sorte que l'adaptation attire davantage d'investissements.
Mais alors ça, c'est difficile, Ronan Dantec, parce que l'adaptation, c'est donc aider les populations à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Là, on est vraiment dans la déclinaison concrète de cet accord de Paris. Le mot adaptation est dedans. Maintenant, souvent, l'adaptation, on entend dire, mais ça rapporte pas beaucoup d'argent. L'atténuation, limiter les émissions de gaz à effet de serre, ça oui, on sent bien, on peut créer des nouvelles entreprises, des nouvelles technologies, mais aider les populations à construire des ponts ou à planter des arbres ou refertiliser les terres, ça coûte de l'argent, mais ça rapporte pas.
Luc peut témoigner. Moi, je suis allé à Cotonou tenir un discours, un peu de vérité, aux élus africains en leur disant, effectivement, l'argent est plus disponible pour l'atténuation que l'adaptation. On voit bien que c'est plus facile de calculer le nombre de tonnes CO2 économisées et de les financer que de financer de l'adaptation. Néanmoins, moi je suis convaincu, et c'était le sens de ce qu'on a écrit dans la déclaration de Lyon et qu'on va réécrire encore plus fortement dans la déclaration de Nantes, climat et développement, c'est la même histoire. C'est la même histoire. Si on ne répond pas aux enjeux climatiques, on ne pourra pas tenir les objectifs de développement. À l'inverse, sans les objectifs de développement, on ne peut pas tenir sur le climat. Donc il faut bien raconter la même histoire. Et ce que je dis, c'est que plutôt que de faire finalement 2 catégories, de manière assez artificielle entre adaptation et atténuation, il faut regarder les projets qui répondent aux deux. Les projets aujourd'hui de développement des énergies renouvelables payée, décentralisée à l'échelle d'une habitation et payée par le mobile. Il y a plein de systèmes qui existent, qui se développent au Kenya et en Afrique de l'Est, un peu moins en Afrique francophone. Ces systèmes-là, ils permettent à la fois de réduire les émissions de CO2, bien sûr, puisque c'est de l'énergie renouvelable. Ils permettent évidemment du développement. Il y a de l'électricité, un confort de vie plus important. Donc, ils répondent aux deux. Simplement, et je vais complètement dans le sens de Luc, moi, j'ai un peu les mêmes expériences. En Tanzanie, il y avait un projet. Ils avaient regardé ce qui se faisait au Kenya. Ils voulaient développer ce système extrêmement intéressant de paiement du développement du photovoltaïque par, finalement, un abonnement de mobile. Et il leur fallait 1 million. Les banques de développement ne leur ont pas donné. Un million de dollars ou d'euros, peu importe. Mais ils ne les ont pas trouvés. Alors qu'à côté, un projet de route à 2x4 voies va trouver 100 ou 200 millions. On est dans cette difficulté-là, mais il faut absolument trouver les systèmes pour aller vers le terrain, aller vers de petits projets. Et ça, c'est tout l'enjeu. Et là, avec Luc, on échange là-dessus souvent. On est tout à fait d'accord. C'est là qu'on gagnera ou perdra les batailles du climat et du développement.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, installé à la Cité des Congrès de Nantes à l'occasion du sommet Climate Change qui a réuni des ONG, des entreprises et des élus. C'est donc 10 mois après la COP21, conclue en beauté, on l'a dit, par l'accord de Paris. Alors, Luc Nyakadja, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Ronan Dantec sur le fait qu'il y a plus d'argent aujourd'hui sur l'atténuation que sur l'adaptation, alors que pour vous, l'adaptation peut aussi être rentable.
En effet. Quand on veut s'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un business qui n'est pas rentable si on ne s'adapte pas. Et quand on s'adapte, il y a un certain nombre d'actions qui deviennent du coup rentables.
Par exemple,
quand il y a un terroir qui est très vulnérable au choc climatique, si vous faites les investissements nécessaires pour l'adaptation, l'agriculture devient plus rentable, la foresterie devient plus rentable, l'économie locale devient plus dynamique. Donc c'est de l'investissement, ce n'est pas de la charité. On parle souvent d'atténuation en disant que l'atténuation attire de l'investissement. Mais ce n'était pas comme ça au début. Il a fallu le protocole de Kyoto pour que l'atténuation devienne, attire de l'investissement. Mais quand on a vu que le prix du carbone a chuté, on a vu aussi comment il y a eu du retrait. Donc le défi pour rendre l'adaptation attrayante pour l'investissement, c'est un défi de politique publique.
Et puis à plusieurs, on est plus fort. Hein. C'est le principe des coalitions. Alors ici, il y a 16 thématiques qui regroupent un peu des coalitions qui avaient été créées. Vous en parliez, Ronan Dantec, au début de l'émission au sommet climat et territoire à Lyon. Bonjour Romain Crouzet.
Bonjour.
Vous travaillez à Transition. En deux mots, Transition, expliquez-nous.
Transition, c'est un bureau de conseil en développement durable.
Voilà, alors ce sommet, c'est la suite, même si on dit que c'est le premier sommet des acteurs étatiques, parce que c'est une dimension nouvelle, hein, c'est l'après-accord de Paris, on va dire. Mais vous avez suivi, Romain, ce qui s'est passé, en fait, au sein des coalitions qui se sont déjà formées à Lyon autour des 16 thèmes. On est un an plus tard, est-ce que ça marche, ces coalitions?
Oui, exactement. En fait, cette dynamique autour de Climate Change, elle est très intéressante dans ce sens-là. C'est qu'on a un travail de fond, donc tout au long de l'année avec ces coalitions. On avait commencé à travailler avec elle avant Lyon. Après Lyon, on a continué à travailler le fond. Et maintenant, on arrive à cette édition nantaise. Et bon, on a différents niveaux de maturité entre chaque coalition, on ne va pas se mentir. Mais
ça dépend quoi, des thèmes?
Oui, selon le thème, on a des coalitions qui ont une dynamique de travail déjà très bien installée.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, sur la mobilité, ça marche très bien. Sur l'eau, ça marche très bien. Ce sont aussi des gens qui ont l'habitude, enfin qui travaillent dans le cadre de l'agenda de l'action qui a été institutionnalisé lors de la COP21 à Paris, où il y avait 70 initiatives labellisées agenda de l'action. Et donc, on travaille pas en parallèle de cela. Nous, on apporte aussi de nouvelles solutions, de nouvelles actions. Et certains acteurs avec lesquels nous travaillons font déjà partie de l'agenda de l'action.
Donc l'idée, c'est de mettre ensemble des entreprises, des ONG, des élus, enfin tout type d'acteurs de la société civile. Pourquoi ? Partager les expériences, comme disait Ronan Dantec, voir ce qui se fait dans un pays, dans un autre.
Alors, chaque coalition, en fait, est composée de deux ou plus copilotes. Chacun sont issus de... Ce sont des acteurs non étatiques de niveau international, des réseaux d'ONG, des réseaux de collectivités locales.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de coalition qui est vraiment dans une bonne dynamique aujourd'hui? Sur les 16 thématiques, par exemple.
Une dizaine qui sont bien engagées, qui travaillent déjà effectivement. Et nous, en fait, on leur apporte un cadre et on a ces éditions annuelles du Climate Change qui donnent un sens. Et on les accompagne donc avec une trame commune pour chacune des coalitions.
Renan Dantec.
Deux exemples très rapidement. Transport, le travail est engagé maintenant depuis plus d'un an, y compris très en lien avec la COP21. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir un plan à 10, 15, 20 ans où pour chaque secteur de transport, ils mesurent le potentiel et ce qu'il faudrait faire pour tenir l'objectif de degrés tel que le GIEC le donne. Donc là, c'est une coalition extrêmement globale qui balaye la totalité des questions de transport et mesure les potentiels.
Mais est-ce qu'on ne reste pas uniquement dans la théorie ?
Non, parce que d'abord, ce sont des acteurs de terrain et que derrière, ce travail est nécessaire parce qu'une fois qu'on a potentialisé, on dimensionne aussi l'effort financier à faire. Une fois qu'on a potentialisé ce qu'on va gagner en termes de CO2 par une politique de transport public, y compris aujourd'hui dans les grandes villes du Sud, c'est plus facile de trouver l'argent. Et puis, cette nécessité de la mesure des potentiels et des résultats, elle est quand même au cœur et plusieurs ateliers ici à Nantes y travaillent. Mais je prendre une autre coalition qui est plus récente, qui est la coalition sur la planification territoriale. On a cette coalition qui dit aujourd'hui très simplement le fonds vert devrait financer de la planification.
C'est alors, pas le fonds vert, c'est donc
le fonds vert, c'est un des mécanismes financiers mis en place dans le cadre de l'accord de Paris, enfin même avant Paris, où voilà, il y a quelques milliards, parce qu'il n'y en a quand même pas énormément, 10 milliards sur 4 ans, qui vont être donnés en subvention pour des projets d'atténuation, d'adaptation. Si le fonds vert finance de la planification de ville, par exemple, il va répondre à la fois à des enjeux d'adaptation, des enjeux de développement et d'énormes enjeux climatiques. Parce que derrière la planification urbaine, c'est la mobilité, c'est les choix énergétiques. Et ça, ça coûte pas cher. Donc là, avec cette coalition et le travail de réseau derrière de l'association Climate Change elle-même, on va être en situation de dire au fonds vert, dire aux États, là-dessus, allez-y vraiment, il y a un gain énorme et en termes CO2 évité, argent investi, c'est bingo.
Oui, puis c'est intéressant, comme on l'a entendu à travers ce qu'a dit Romain Crouzet, toutes ces coalitions sont auditées, donc on a des moyens d'observer ce qui se passe. Lugna Kadja, vous allez vous engager dans la coalition adaptation et la coalition finance.
Je m'investis davantage dans l'adaptation parce que c'est un peu le parent pauvre du processus, alors que c'est là où il y a l'urgence. On sait que le défi climatique, c'est l'exacerbation des inégalités. Et on en voit des réactions aujourd'hui. On voit les replis. J'ai bien aimé ce que Ronan a dit ce matin quand il parlait de ceux qui étaient devenus climato-fatalistes. Et c'est un péril. Donc l'adaptation, c'est une dynamique qui a besoin d'être soutenue. Quand on a parlé de 100 milliards par an comme investissement pour le climat, ce n'est pas de l'aide publique. C'est toutes les dynamiques qui vont permettre de générer ces 100 milliards-là. Donc nous avons le défi de faire en sorte que, comme on l'a fait par le passé pour rendre l'atténuation attrayante pour l'investissement privé, on doit faire de même pour l'adaptation. Nous devons aussi partager les meilleures pratiques qui permettent de ramener les ressources au niveau local, de façon transformative dans les politiques locales. Comment fait-on par exemple pour construire la résilience ? La résilience, on en parle parfois comme, comment je dirais, d'un mot vide de sens. Mais la résilience, c'est en réalité la capacité d'un territoire de fonctionner en mode adaptif de façon permanente. Et ça,
face au changement climatique, c'est une obligation.
C'est une obligation, c'est une exigence. On ne peut pas le faire si la planification ne change pas, si le mode de dépense ne change pas. Ce que nous faisons à travers local, c'est quoi ? On amène des subventions, on prend une collectivité territoriale qui a besoin, par exemple, mettons, de 100 euros de budget. Et on lui apporte 25 euros de subvention pour qu'elle ait 125 euros. Et avec ça, elle a l'obligation d'avoir un budget de résilience et elle a une visibilité de l'ordre de 3 à 6 années de garantie de cette subvention-là. À charge pour elle de travailler maintenant à créer cette modalité de résilience-là. Et le mode de monitorage est un mode qui inclut, y compris les collectivités locales, les populations locales. Donc c'est tout à fait inclusif comme démarche.
On l'entend bien, messieurs. En tout cas, grâce à vous et grâce à ce sommet Climate Change, la dynamique est en marche. Merci d'être passé dans le studio RFI, ici au sommet Climate Change. Restez sur RFI. Dans quelques minutes, nous verrons comment les villes s'impliquent dans la transition pour lutter contre les changements climatiques. Ce sera juste après le flash d'info. À tout de suite.